On va s'intéresser à une autre maladie auto-immune maintenant, le vitiligo et à son traitement. Alors le vitiligo, Macamis, c'est une maladie qui provoque des taches blanches sur la peau.
Oui, et on le rappelle, c'est une maladie non contagieuse qui touche 1 à 2% de la population mondiale. Alors à l'origine de cette affection, des globules blancs qui attaquent les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont ces cellules qui donnent à chacun de nous notre couleur de peau. Alors plus de mélanocytes, plus de couleur. Évidemment, ces taches dépigmentées se voient plus sur une peau foncée. On connaît encore mal les causes de cette maladie auto-immune. Elle a une composante génétique dans un tiers des cas. Et l'étendue des taches peut aussi dépendre de l'état de stress ou de la fatigue. On sait aussi que cette décoloration de la peau s'arrête à un moment donné lorsque le système immunitaire et les globules blancs finissent par comprendre qu'ils ne s'attaquent pas à la bonne cible dans le corps. Alors ce qui est aussi surprenant, c'est que le vitiligo est plus fréquent autour des yeux, de la bouche et autour des articulations. Ce sont probablement des zones qui contiennent plus de globules blancs. Donc voilà. Et une fois qu'elles sont là, ces taches dépigmentées s'installent, elles évoluent. Et on va retrouver Behrouz Kazraei au centre de dermatologie de Cornavin à Genève.
Chez un petit pourcentage des patients, les taches peuvent disparaître spontanément, mais ça arrive quand même très rarement. La plupart des fois, on voit que les taches de vitiligo évoluent et elles deviennent plus grandes jusqu'à un certain temps, parfois quelques mois, parfois quelques années, et par la suite, normalement, la maladie se calme et ça devient un vitiligo stable.
Mis à part le fait que ça peut déranger certaines personnes au niveau esthétique, est-ce que ça a des conséquences médicales? Les mélanocytes sont bien là pour quelque chose, normalement pour protéger du soleil. Ces taches blanches, est-ce qu'elles sont plus à risque de développer des cancers ou de prendre des coups de soleil?
On pensait théoriquement que les gens qui ont du vitiligo ont plus la tendance de développer les cancers de la peau, mais la recherche a montré le contraire. C'est-à-dire les gens qui ont du vitiligo ont moins la tendance de développer les cancers cutanés. Ça a été prouvé par plusieurs projets de recherche jusqu'à maintenant. Et on peut l'expliquer par certaines des molécules qui sont plus exprimées dans la peau de ces personnes, molécules qui s'appellent le P53, et qui protègent la peau des gens qui ont du vitiligo contre le cancer de la peau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour les gens qui ont du vitiligo. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ces gens s'exposent au soleil sans prendre des précautions, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un risque plus important chez ces gens par rapport à la population normale. Et ça, c'est la différence entre les gens qui ont du vitiligo et les gens qui ont du albinisme. Parce que chez les gens qui ont du albinisme, il y a une augmentation importante des cancers cutanés, bien sûr.
Ouais, donc finalement, ces taches blanches dues au vitiligo sont sans grande conséquence, si ce n'est évidemment esthétique, et encore. Mais finalement, la question, est-ce qu'on peut recolorer les parties de peau qui sont touchées?
Alors, il se trouve que les méthodes pour stimuler et garder en vie ces fameux mélanocytes sont de plus en plus élaborées. On retrouve Behrouz Kazraei.
Pendant des décennies, on utilisait la cortisone en topique. Par la suite, on a eu des autres traitements qui ne sont pas à base de la cortisone, comme les crèmes protopiques ou Elidel. Ces crèmes sont destinées à calmer le système immunitaire localement. Par contre, normalement, une repigmentation complète n'arrive pas après l'utilisation de ces crèmes. On a besoin d'utiliser d'autres traitements, comme la photothérapie par exemple, pour stimuler les mélanocytes autour des follicules pileux pour qu'ils migrent et qu'ils viennent dans les taches dépigmentées, ou utiliser les méthodes de transplantation mélanocytaire par lesquelles on amène les mélanocytes des parties non touchées de notre corps dans les taches dépigmentées.
Alors, c'est vrai que quand on parle de transplantation, on s'imagine carrément des greffes d'organes. Là, on est à quelle échelle? Quelle taille de peau vous prélevez?
Comme vous dites, quand on parle de transplantation, normalement, le patient, il pense aux greffes des reins. Non, ces méthodes sont des méthodes très, très simples. On est vraiment sur la surface de la peau. On a quelques microns, en fait, de la surface de la peau. Ça représente la moitié de l'épaisseur d'un cheveu de l'être humain. Et on ne parle pas du tout de transplantation d'organes, on ne parle pas du tout de médicaments immunosuppresseurs par la bouche. Il s'agit des cellules de la même personne qu'on implante et il s'agit vraiment des méthodes simples. Bien sûr, il faut qu'elles soient maîtrisées pour qu'elles donnent des résultats intéressants, mais il s'agit finalement pas des méthodes très compliquées.
Comment vous procédez concrètement quand vous faites une transplantation mélanocytaire?
Donc, on prélève une partie de la peau sur la fesse ou sur la cuisse. On traite cette partie de la peau avec une substance qui fait extraire les mélanocytes. Par la suite, on fait une dermabrasion sur la peau qui peut être mécanique ou laser, juste pour enlever la partie très superficielle de la peau qui s'appelle l'épiderme. Et on met la solution contenant des mélanocytes de goutte à goutte sur cette partie et on fait un pansement et la peau se cicatrise après quelques jours. Par la suite, on aura donc une peau qui contient des mélanocytes, qui n'est pas encore pigmentée parce que les mélanocytes ne sont pas encore actifs. Et on vient avec une photothérapie là-dessous pour réactiver ces mélanocytes. Normalement, après quelques semaines, la repigmentation commence et l'effet final, normalement, on l'obtient après quelques mois de traitement. Et les couleurs optimales, normalement, sont obtenues après un an de la greffe. Ça, c'était la transplantation de mélanocytes autologues. Avec le punch grafting, on fait une anesthésie locale, on prend des tout petites parties de la peau avec un appareil, tout petit appareil qui ressemble à un stylo qui s'appelle le punch. On prend des parties à peu près 1 mm de la peau. On prend des parties avec un diamètre de 1 mm et on les implante dans les taches blanches. On peut aussi préparer le terrain avec le laser ou ajouter des médicaments qui augmentent la migration des mélanocytes.
Ça prend combien de temps de transplanter ces mélanocytes ?
Ça peut varier de quelques heures jusqu'à une journée complète de traitement. Ça se pratique sur anesthésie locale. C'est très très rare qu'on soit obligé de faire anesthésie générale. Et parfois de transplanter une tache, par exemple, sur la moitié du visage, ça nous prend, pour que vous ayez une idée, ça nous prend autour de 2 à 3 heures de temps.
Si on prend des mélanocytes d'une autre partie du corps, la couleur de la peau n'est pas tout à fait la même. Comment ça se fait qu'on ne voit pas une grosse différence ? Je n'ai pas la même couleur de peau autour des paupières que sur une fesse ?
Oui, ça c'est vrai, mais petit à petit, ces mélanocytes, selon l'endroit où ils sont implantés, ils vont se proliférer et le nombre de ces mélanocytes devient la même chose que la peau avoisinante. Parfois, on a une hyperpigmentation au début de traitement, c'est-à-dire la peau devient un tout petit peu plus foncée par rapport à la peau autour, mais petit à petit, cette couleur se corrige.
Ça veut dire que les tissus qui se trouvent dessous régulent un petit peu, quelque part, la couleur de la peau, comme on fait, par exemple, avec les grands brûlés.
Alors, on fait aussi ces méthodes, mais par contre, la transplantation avec punch grafting, c'est une méthode très simple, qui est utilisable dans quasiment n'importe quel cabinet médical. On n'a pas besoin de méthode de culture cellulaire, donc le risque de infection ou le risque de contamination serait beaucoup moins. La surface qu'on peut traiter avec cette méthode peut être une surface très importante, plusieurs centimètres carrés. La transplantation avec punch grafting, c'est une méthode très simple.
Une fois qu'on a transféré les mélanocytes, comment ça se fait que la partie qui a été traitée ne se décolore pas à nouveau ?
Au début, bien sûr, il faut avoir des traitements immunosuppresseurs en local. Donc on utilise le protopique ou la cortisone sur la zone. On utilise la photothérapie qui a aussi un effet immunosuppresseur. Et petit à petit, on diminue l'application de ces médicaments. Aussi, le système immunitaire se calme après un certain temps. Et petit à petit, il apprend qu'il ne faut plus qu'il attaque les mélanocytes. Aussi, l'origine de ces mélanocytes transplantés est importante. Il ne faut jamais les prendre sur les parties où on a la tendance à développer du vitiligo. Il ne faut jamais les prendre, par exemple, sur les coudes ou sur les genoux ou les parties où on voit fréquemment le vitiligo. Normalement, il faut les prendre sur les cuisses, sur les fesses, où les mélanocytes ont moins la tendance à se faire attaquer par le système immunitaire.
Ça voudrait dire que les mélanocytes qui sont autour de nos paupières sont légèrement différents de ceux qu'on a sur la cuisse ou sur les fesses ?
C'est possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent être légèrement différents du point de vue de leur antigène qui se trouvent sur leur surface et donc ils se font moins ou plus attaqués par le système immunitaire.
Est-ce qu'il y a des risques dans cette méthode de transplantation de mélanocytes ?
Il y a toujours des risques. Donc les risques avec ces méthodes de transplantation, c'est le risque de cicatrice. Ça arrive rarement si le médecin est assez expérimenté pour le faire. Il y a le risque d'infection, bien sûr, le risque de contamination, surtout si on travaille avec les méthodes de culture cellulaire. Mais ces risques sont normalement minimes. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit des méthodes qu'on connaît très très bien et les risques de cicatrices et de l'infection ou contamination sont vraiment très peu.
À qui est-ce que ce traitement s'adresse en premier lieu ?
Alors, normalement, ce traitement s'adresse aux gens qui ont essayé des autres méthodes de traitement sans réussite. Par exemple, le traitement local avec les immunosuppresseurs associés avec la photothérapie. Les gens qui ont les plaques avec des poils blancs. Parce que normalement, ces gens, ils ne répondent pas à la photothérapie parce que la présence des poils pigmentés est très importante sur la tache dépigmentée pour qu'on puisse repigmenter ces taches avec les méthodes conventionnelles comme la photothérapie. Si une tache contient uniquement des poils blancs, une des meilleures méthodes pour repigmenter la tache serait la transplantation.
Est-ce que le fait de transplanter des mélanocytes sur une tache autour des yeux va prévenir l'apparition d'autres taches à côté?
Pas du tout. On traite les taches existantes. Donc on fait vraiment un traitement cosmétique pour repigmenter les taches. La transplantation mélanocytaire n'a aucun effet sur l'apparition des nouvelles taches chez la patiente.
Ça ne serait pas plus simple alors à ce moment-là de traiter par exemple tout le visage en prévention de nouvelles taches?
Ceci malheureusement n'est pas possible. Quand on fait un traitement par la photothérapie, les rayons de UVB calment le système immunitaire sur toute la surface traitée. Donc on peut dire qu'il y a un effet préventif qui est quand même pas à 100%, mais qui existe. Par contre, de traiter toute la surface de la peau, c'est malheureusement très compliqué et pas possible.
C'était donc Behrouz Kasraï, spécialiste du vitiligo au centre de dermatologie de Cornavin à Genève, qui nous parlait de cette greffe mélanocytaire, une technique pour recolorer la peau affectée par le vitiligo. C'était à votre micro, Macamis. Et au moins, est-ce qu'on peut imaginer utiliser la transplantation de mélanocytes pour traiter d'autres types de taches, je sais pas, les cicatrices, les taches de naissance?
Alors oui, en effet, ça peut être utilisé également pour repigmenter les cicatrices dépigmentées, les cicatrices blanches qu'on a parfois, ou bien d'autres taches blanches congénitales.
Alors donc, c'est une technique qui peut être transplantée à d'autres problèmes. Merci Ouma et très bonne journée.